tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Le livre de Frog. Roman, discussion, échange, livre. Le livre de Frog. Littérature, livre, page, invité, marque-page. Le livre de Frog. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Livre de Frog sur Radio Grenouille. Malheureusement, Elodie ne peut pas être avec nous aujourd'hui et c'est donc seule, mais avec autant de plaisir que je reçois Carlo Baghetti, doctorant en littérature italienne à l'université d'Aix-Marseille et Rome La Sapienza, avec qui nous allons donc discuter d'un roman qu'il a particulièrement aimé dans sa vie de lecteur. Et après la Chine le mois passé avec Moyenne, nous allons cette fois voyager en Italie et plus précisément à Naples, puisque notre invité a choisi de nous parler de Démantèlement d'Ermano Rea, un roman de 2002 qui raconte par la voix d'un ancien ouvrier la fin de l'aciérie Ilva de Bagnoli dans le bassin napolitain. Mais avant de commencer la discussion, un petit passage de lecture, d'abord en italien, puis en français.
Pensai che il crollo a cui stavamo per assistere non era diverso da altri spettacoli di morte. Le persone e le cose possono assomigliarsi oltre ogni immaginazione. Mi vennero a mente le scene di un film che mostrava un uomo sulla sedia elettrica, il boia accanto, il pubblico dietro a uno schermo di vetro, ansioso di vedere com'è che si contrae una faccia nel momento di massimo dolore, di addio alla vita. La torre mi guardava? No, ero io che fissavo la torre. Lei se ne stava lì, fiera, eretta, dignitosa, col suo immenso cappello in testa, in attesa del suo destino. Mancano 60 secondi. Arriva il secondo colpo di sirena, breve, tagliente. Sussultiamo tutti, salvo ricomporci subito nel nostro stato di attesa. Meno 20, meno 10, meno 5, 4, 3, 2, 1. La torre vacilla per un attimo come un ubriaco. Sembra davvero un essere umano con quel goffo cappello in testa, poi crolla, un tonfo sordo che è soltanto il prolungamento del boato prodotto dalla dinamite. Fu più o meno a quel punto che sulla folla, da basso, cominciarono a piovere le note, quasi rabbiose, quasi dolenti, quasi disperate, dell'Internazionale, cantate da un solitario, misterioso sassofono.
Je pensais que l'écroulement auquel nous étions sur le point d'assister n'était pas différent d'autres spectacles de mort. Les personnes et les choses peuvent parfois se ressembler au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. C'est alors que me revinrent à l'esprit les scènes d'un film où l'on voyait un homme sur la chaise électrique, avec derrière lui le bourreau et le public derrière un écran de verre, anxieux d'observer comment un visage peut se contracter au moment où la douleur atteint son seuil maximal, où le condamné dit adieu à la vie. Était-ce la tour qui me regardait ? Non, c'était moi qui la fixais. Elle se tenait là, fière, dressée, digne, coiffée de son immense chapeau, attendant son destin. Encore 60 secondes. Le second coup de sirène retentit, bref, tranchant. Nous tressaillons tous, même si nous reprenons aussitôt notre posture d'attente. Moins 20 secondes, moins 10, moins 5, 4, 3, 2, 1. La tour vacille un instant comme un ivrogne. On dirait véritablement un être humain, avec ce château grotesque sur la tête. Puis elle s'écroule. Un grand bruit sourd qui ne fait que prolonger celui produit par la dynamite. Ce fut à peu près à ce moment que sur la foule, en bas, commencèrent à pleuvoir les notes, presque rageuses, presque douloureuses, presque désespérées, de l'Internationale sortant d'un saxophone solitaire et mystérieux. De nombreuses têtes regardèrent vers le ciel. Il ne pouvait y avoir aucun doute sur le fait que cette musique venait d'en haut, mais d'où provenait-elle exactement ? On indiqua différents endroits. Certains levèrent le poing en signe de salut. Beaucoup étaient en larmes. Certains sanglotaient même. Enfin, on discerna la silhouette de Seppe. Regarde, c'est lui l'homme qui joue l'Internationale. Son saxophone argenté se détache sur le ciel sombre. Le voilà, là-haut, au-dessus du laminoir. Tu le vois ? C'est moi qui dus dire à Danubio d'être courageux. Sur la terrasse du train de fabrication des feuillards, une caméra, je ne me souviens plus à qui elle appartenait, continuait à filmer jusqu'au bout chacun de nos gestes, à percer à jour toutes nos émotions. En ce qui concerne Seppe, Il continuait à jouer longtemps, toujours le même air, avec ses mêmes notes sèches et déchirées. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Moi aussi, je me mis à bredouiller ses paroles, en même temps que Danubio. Marlène chanta elle aussi, avec deux autres jeunes gens, mais en français.
Le livre de Frog.
Carlo Baghetti, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci.
Merci à vous.
Alors, vous êtes doctorant en littérature italienne à l'université d'Aix-Marseille et de Rome La Sapienza.
Exactement.
Et puis, vous avez aussi été, avant cela, journaliste en Italie, notamment à Naples.
Mm-hmm.
Vous continuez aussi, plus ponctuellement aujourd'hui, à collaborer avec plusieurs médias italiens, comme Nazione Indiana, Minima e Moralia, la revue Orlando,
mm-hmm.
si tout va bien.
Exactement.
Et puis aussi, parmi vos nombreuses activités, vous avez été organisateur d'exposition d'art contemporain, donc un profil étoffé, diversifié, que nous recevons aujourd'hui.
Bon, merci.
Bienvenue, donc.
Merci.
Alors,
mais je n'ai jamais fait de la radio, donc...
voilà, c'est l'occasion.
Voilà.
Du coup, vous avez aujourd'hui choisi de nous parler d'un livre de l'écrivain italien Ermanno Rea, La Dismissione, en italien, Démantèlement, en français. Donc, La Dismissione, qui a été publiée en 2002 en Italie, puis en France, chez Flammarion, en 2006, avec une traduction de Franck Labrasca. Et Démantèlement, pour présenter rapidement ce roman, j'ai envie de dire, c'est avant tout, et selon les mots de l'auteur lui-même au début de ce roman, c'est donc avant tout un problème, et puis un récit, une voix. Alors, un problème qui est celui de la fermeture et du démantèlement de l'entreprise Ilva de Bagnoli, une aciérie du bassin industriel napolitain, donc un ancrage historique particulièrement fort, on peut le voir, avec toutes les conséquences sociales qui sont derrière cet ancrage historique que l'on peut imaginer. Un récit, ensuite, avec ce problème, que reconstruit l'auteur à partir d'échanges et de rencontres qu'il a effectuées avec Vincenzo Buonocore, alors un pseudonyme, mais que l'auteur nous présente comme un ex-ouvrier, ex-manutentionnaire, ex-technicien de zone des coulées continues, aujourd'hui dessinateur industriel sans diplôme, c'est-à-dire autodidacte. Un ouvrier donc qui a monté progressivement les échelons dans cette aciérie, à tel point que la direction va lui confier, lors de la fermeture donc de cette usine, le démantèlement des coulées continues, une des pièces maîtresses dans le processus de fabrication de l'acier, donc qui a été vendue, cette pièce maîtresse, aux Chinois. Vincenzo Buonocore va se lancer à corps perdu, on peut le dire, dans cette tâche, de manière même presque obsessionnelle. Et le récit nous raconte donc minutieusement cette entreprise, même s'il la dépasse également largement, puisque à travers ce processus, Vincenzo Buonocore va aussi nous raconter à la fois sa propre expérience et sa propre perception de la fin de cette usine centenaire du bassin napolitain, ainsi que toutes les conséquences sociales, économiques, mais aussi psychologique, qu'elle a pu entraîner pour et autour de lui. Donc voilà pour une présentation rapide de ce roman, avec qui arrive cette question rituelle du livre de Frog. Pourquoi ce roman ?
Bon, quand vous m'avez demandé de présenter un livre, ça a été un peu la crise, dans le sens que c'est toujours difficile de choisir un livre pour quelqu'un qui fait de la lecture une des activités principales, voilà, surtout en ce moment. Donc, ma formation de lecteur, en tant que lecteur, ça a été... signé par différents livres, différents romans notamment, très important. Donc le moment où j'ai dû choisir un livre, c'était très difficile. Donc d'abord j'avais pensé à Dostoïevski, puis je me suis dit c'est un peu loin dans mon expérience de lecteur. J'avais pensé d'autres auteurs, et puis finalement j'ai commencé à questionner le pourquoi je lis, pourquoi la lecture a une place assez importante dans ma vie. Et très brièvement, c'est parce que c'est où je trouve des réponses à cette question, que c'est qu'est-ce qu'on a aujourd'hui,
C'est un peu une question que je me pose tout le temps. Et la lecture et le roman, notamment, c'est un instrument qui me donne... Souvent, c'est là où je cherche mes réponses, principalement. Donc, dans le roman d'Herman Norea, notamment, j'ai trouvé pas mal de réponses à cette question. Et surtout, je suis né à Naples. Donc déjà, c'est quelque chose c'est un lien très fort avec ce livre, le fait d'être né à Naples, de connaître la ville où la dismission c'est fait. Et aussi parce que répondre à une question que je me pose très souvent dans les dernières années, c'est autour de la question du travail. Donc, qu'est-ce que ça représente le travail, surtout la fin du travail ou le travail précaire. Voilà, ce sont des questions que je me pose souvent et j'interroge les romans. C'est pour ça que j'ai choisi cet ouvrage.
Eh bien, merci. Alors, on va justement interroger cette fin du travail, puisqu'on peut revenir sur cet extrait que vous avez choisi et qui justement représente la fin du processus, on a envie de dire du démantèlement, puisqu'on arrive au moment où donc on dynamite les bâtiments qui restent sur le site donc de l'usine. Et cette phrase qu'écrit donc Herman Norea et qui dit « Les personnes et les choses peuvent parfois se ressembler au-delà de tout ce que l'on peut imaginer », en disant « L'écroulement auquel nous étions sur le point d'assister n'était pas différent d'autres spectacles de la mort ». Donc effectivement, ce qui est au centre de ce roman, c'est avant tout le démantèlement d'une usine. Mais ce spectacle de la mort que nous donne à voir Herman Norea par le biais de Vincenzo Buonocore, on a aussi l'impression, très rapidement, de voir que ce n'est pas seulement le démantèlement d'une usine. C'est aussi le démantèlement et la mort de beaucoup plus que ça, puisqu'un démantèlement à plusieurs niveaux, d'abord effectivement d'une usine, mais de tout ce que cette usine porte avec elle depuis un siècle, et notamment donc de la vie et du travail de ses ouvriers, de la place qu'ils occupent dans cette usine, et aussi bien sûr de toute une époque. Effectivement, comment est-ce que vous voyez notamment ce titre de démantèlement, comment vous l'entendez?
Sûrement, la chose qui est, je pense, une des choses les plus passionnantes de ce livre, c'est que Vincenzo Buonocore, l'ouvrier qui après est devenu un employé dans toute cette carrière que ça a duré, je pense, une vingtaine d'années au sein de l'usine, en fait, c'est le démantèlement de soi-même. En fait, j'ai choisi le morceau. Quand vous m'avez demandé de choisir un morceau, j'ai choisi celle-là parce que, en fait, c'est le moment vraiment de... C'est le moment le plus haut dans lequel tous les efforts Vincenzo Buonocore a fait pendant son expérience de démantèlement de la usine se termine. En fait, lui, il a essayé tout. En fait, l'extrait que j'ai choisi, c'est à page 330 dans l'édition italienne, donc c'est vers la fin du livre. Voilà, lui, pour tout le temps, a essayé d'éviter l'usage de la dynamite. Parce que pour une sorte de respect de soi-même, de ses origines, de la tradition ouvrière, que ça a été une expérience très importante. C'était un rêve. Souvent, on entend parler de l'industrialisation du sud d'Italie comme un rêve que se réalise. Et cette rêve... demandé pourtant à Vincenzo Buonocore du respect. Et donc lui, il a essayé d'éviter tout le temps l'usage de la dynamite, de démonter presque à la main cette immense structure. Et voilà, même avec une obsession. L'obsession, c'est la névrose. Non, c'est un élément fréquent dans l'usine et dans les romans d'usine. En fait, aussi, on peut placer Herman Norea et la dismission dans une tradition qu'on a en Italie de romans d'usine, on va dire, de romans qui s'interrogent sur cette période très importante que c'est l'industrialisation. Et je voulais juste dire quelques mots sur l'industrialisation du Sud et pourquoi c'est un rêve. En fait, en Italie, le Sud d'Italie a été vraiment Il y a un problème très fort de chômage. Voilà. Et l'usine est représentée à travers un programme dirigé par l'État. Ça s'était mis en place, ce programme, pour essayer de résoudre ce problème du chômage. Donc, l'arrivée de l'usine au sud d'Italie, ça représentait vraiment la moyen pour s'échapper d'un rapport très direct avec la nature. Avant, le sud d'Italie, son économie était basée sur l'agriculture, donc très fortement liée à tout ce que c'est les pluies, le soleil, etc. Donc, arriver à lier son propre destin, sa propre nourriture, salaire, tout, la vie d'une famille, la possibilité, c'était lié à la chaîne. Voilà. Alors ça, c'était vraiment un point très important de la vie de chacun. Donc après, tout ça se lie aussi à la question du travail. Qu'est-ce que c'est le travail pour Vincenzo Buonocore? Et c'est une passion. Lui utilise vraiment ce mot qui est plein et riche de d'évocation.
Et effectivement, on a l'impression que c'est un peu la fin de cette époque de l'industrialisation, puisque on parle justement la grande problématique, c'est la désindustrialisation. Je suis bien. Voilà, donc effectivement aussi démantèlement de toute une économie finalement et oui. De tout un système de production sur cette région napolitaine qui du tout coup est aussi interrogée.
Tout à fait, en fait. La dismission, c'est un peu le point final de tout ça. Il y a eu d'autres romans qui parlaient vraiment de la mise en place des usines, de qu'est-ce que représentait l'usine là-bas. Et finalement, dans le 2002, donc à la fin de tout le siècle, du XXe siècle, il y a le démantèlement de cette usine. Donc, oui, c'est un point final. Et pour moi, c'est un chef d'œuvre de la littérature d'usine que je regarde avec attention.
Oui, donc effectivement, parce qu'il faudrait aussi peut-être préciser que le démantèlement de cette usine Ilva est tout à fait contemporaine, puisque l'usine a fermé en 1991 et que le démantèlement donc a pris plusieurs années. Et donc le roman s'achève, vraiment retrace toute cette période, sans pour autant tomber dans l'enquête ou une reconstitution historique ou politique. Ça, Herman Orea, sur la toute première page du roman, le dit, ce n'est pas... les pages qui suivent ne constituent toutefois ni un réquisitoire, ni une enquête, ni encore moins une reconstruction historique et politique de la vie tourmentée de l'usine jusqu'à son anéantissement. Et à ses yeux, on reste véritablement, je le disais dans l'introduction, dans un récit. Le récit d'un homme, d'un ex-ouvrier qui a donc, sa passion du travail à l'usine, monter les échelons. Ce récit, donc ce point de vue qui nous est donné à voir, qui est celui de Vincenzo Buonocore. Et donc, à votre sens, voilà, on a ce Herman Orea qui prend la parole pour cet homme, pour cet ex-ouvrier. Et qu'apporte, selon vous, ce point de vue dans ce roman?
La chose que ça me fait plaisir que vous me posiez cette question, parce que une chose très importante pour moi dans ce roman, c'est la dimension collective. C'est-à-dire que Herman Orea, en tant qu'auteur, il prend la parole hors du roman, dans le passage que vous avez lu. En fait, il explique de quelle est la problématique du livre. Il parle notamment de problèmes. Je ne sais pas si c'est ça la traduction en français, le problème. Il dit le problème du roman. Il problème est la dismission.
Le problème.
Voilà, donc il parle vraiment de la problématique du livre. Et puis finalement, présente ça et après, il recule. Donc, laisse la parole à son interlocuteur. Et le fait que s'agit d'un dialogue mis en plat, sur page, c'est la constitution aussi d'un espace communautaire, d'une communauté très restreint, parce que ça s'agit de deux personnes en dialogue. Mais c'est vraiment très important, cette communauté, parce que l'usine en Naples, c'était le rêve d'une communauté. Et la fin de l'usine, c'était la fin d'une communauté. Aujourd'hui, dans le quartier de Bagnoli, que c'est le quartier où il était placé, l'usine de l'Ilva. il reste encore le reste de ce qui était l'usine. En fait, bon, il y a un projet qui est en place depuis le 1900. Quand s'est fermée l'usine, ils ont mis en place cette projet pour renouveler le quartier. Bon, il est toujours à cet état. Et c'est bizarre de voir cette vide dans la ville. Bon, c'est pas une zone, c'est pas un quartier central de la ville de Naples, mais c'est quand même un quartier très important, voilà. Donc voir ce vide, ça choque. Donc est-ce que j'ai répondu
oui,
à la question?
Oui, tout à fait. Parce que voilà, je voulais aussi préciser que c'est le roman se présente sous la forme d'une mise en scène d'un dialogue, de ce dialogue, oui. Mise en scène de ce dialogue entre justement Vincenzo Buonocore et Ermanno Rea, on suppose. On ne sait pas vraiment, voilà. Mais.
On dit le narrateur et le racontateur, ça doit marcher en français.
Celui qui raconte.
Qui raconte.
Donc voilà, effectivement, ce point de vue, ce récit donc de Vincenzo Buonocore, il pose aussi pas mal de questions sur lesquelles on peut rebondir, et c'est vrai que cette mini-introduction faite par le narrateur au tout départ du roman, très bien, parce que pour explorer l'œuvre, c'est très synthétique, donc ça donne plein d'idées, c'est parfait. Et donc, notamment, effectivement, vous l'avez déjà souligné, il insiste sur la passion de Vincenzo Buonocore, et Vincenzo Buonocore qui peut être d'ailleurs mal vu par ses collègues, parce que ambitieux, parce que voulant là. Et Vincenzo Buonocore, à certains moments, voilà, Vincenzo Buonocore, et on le sent, lui, réellement passionné par son travail. Notamment, voilà, cette anecdote, vous le disiez, il y a la dynamite, et puis moi, il y a ce passage quand même où j'ai dit, il y a aussi cette force, je trouve, de ce récit qui dit, bon, moi, quand on parle d'une machine, c'est pas ma grande passion à moi dans la vie, c'est celle de Vincenzo Buonocore. Encore et pas la mienne. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, pétard, il arrive à me faire comprendre la poésie qu'il peut y avoir dans un moteur. Parce qu'effectivement, il parle avec une espèce de poésie quand même, des pièces qui s'imbriquent de ces mouvements, ces flux qui sont ensemble et qui arrivent à fonctionner, toutes ces forces qui fonctionnent. Et notamment, donc il évite la dynamite et puis il veut aussi éviter l'usage, donc sa grande mission, c'est de démonter ses coulées. Et il veut donc éviter d'utiliser un chalumeau pour démonter des vis, des boulons, voilà. c'est l'italien qui me dit comment on dit les mots en français, c'est super. Donc voilà, mais il veut éviter de couper au chalumeau certains boulons qui, en fait, l'acier a formé autour de ces boulons une masse qui fait qu'on n'arrive pas à les débouler, à les dévisser. Et donc tout le monde, ou presque, veut aller directement au chalumeau, et Vincenzo Buonocore dit non. Il y aura un fou dans l'histoire qui va prendre sa lime et limer tout. Voilà. Et effectivement, il y pense, et il finit une nuit par se rendre à l'usine après le travail, seul. Bon, le rejoint notre personnage.
Chung Fu,
je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Donc, il se met donc toute la nuit entièrement à essayer donc de resculpter, recréer la forme originale de ses boulons. Et il y a ce moment très beau où lui-même, sans y croire, on a l'impression qu'il se dit « je suis fou, voilà, en plus ça va même pas marcher », et puis là, ça marche. Et c'est vrai qu'on est heureux, en fait, pour lui, que ça marche, c'est-à-dire ce moment, et on comprend cet amour et cette passion de la machine et de son travail qu'il a, et donc effectivement, passion entre un homme et une machine qui peut aller jusqu'à l'obsession, hein, faut le dire. Et donc voilà, je voulais que vous rebondissiez un petit peu.
En fait, comme je l'ai dit, en fait, c'est le domaine totalement de soi-même. L'usine, c'est une sorte d'osmose avec Vincenzo Buonocore. Tout l'action qu'il mène, c'est de monter soi-même ses origines, sa tradition, son idéologie. En fait, c'est aussi très particulier. Et Herman Norea, par Vincenzo Buonocore, il le dit à un moment donné, je ne me rappelle plus où. Je pense que c'est le. En fait, bon, après, on aura l'occasion de parler de Marcella, c'est là. En fait, à un moment donné, cette fille qui meurt, il y a l'enterrement. Il dit clairement que l'enterrement de Marcella, c'est l'enterrement de l'usine, de l'idéologie, du discours qu'il y a autour de ça. Donc tout le respect qu'il a, et un peu une certaine folie qu'il y a autour de cette démantèlement par Vincenzo Buonocore, et évidemment c'est complexe. Il a, c'est une forme de respect. Puis il faut dire aussi que la présence de Chung Fu. En fait, Chung Fu, qui c'est cette mec? C'est quelqu'un qui va à Naples, à l'usine, pour acheter cette coulée continue.
Voilà. Mm. C'est un chinois. Hein, donc.
C'est un chinois, oui. Parce que, en fait, le pôle industriel, ça a été après acheté par des entrepreneurs chinois, indiens, etc. Donc, évidemment, il y avait des délégués qui allaient voir comment ça se marchait. Donc, le fait, le respect qui Vincenzo Buonocore a pour la machine, c'est pour soi, pour le passé aussi, pour permettre à cette usine de continuer à vivre après l'avoir quittée. En fait, voilà. Donc le fait, l'usage de
chalumeau.
De la chalumeau. Merci, j'ai jamais entendu de ça, de chalumeau. Et ça permet aussi de remettre en place parfaitement l'usine en Chine, en Inde ou n'importe où. Donc le fait que ce rêve qui a représenté tout pour la vie de Vincenzo Buonocore et tout pour la vie du quartier de Bagnoli, pour la vie de beaucoup de gens du sud d'Italie. On oublie parfois que bon, il y a beaucoup de questions autour de la fermeture d'usines, la question écologique surtout, mais il ne faut pas oublier que quand l'usine a fermé, employés plus que 20 000 personnes. Donc 20 000 personnes dans une économie comme celle du sud d'Italie, ça veut dire à peu près 20 000 familles. Donc la fermeture d'une usine, c'est quand même... on pourrait bondir autant qu'on veut sur la passion, du travail, etc. Mais c'est une tragédie au niveau économique. Donc voilà. Et
c'est vrai que derrière cette passion, ce qui ressort surtout, c'est aussi voilà, le respect qui permet aussi de réhumaniser presque la machine, jusqu'à la machine, de dire...
Et puis, oui, en fait, il y a aussi la dimension personnelle de Vincenzo Buonocore qui a dédié toute sa vie au travail, parce qu'il était passionné depuis toujours de la mécanique, de bricoler. Il a quand même un côté un peu obsédé quand il raconte de chez lui que tout est organisé. voilà. Et donc, cette côté un peu obsédé a transmis... Voilà, c'est adapté aussi à son approche au travail. Et ce qu'il dit, à un moment donné, je ne me rappelle plus où, il dit, voilà, j'ai une petite vie. Et le démantèlement, ça me permet d'achever un chef d'œuvre. Ça sera l'occasion la plus importante de ma vie. C'est l'unique chose que je pense qu'il dit que je peux raconter à mes nouveaux. C'est voilà. Donc c'est aussi cette dimension de voilà.
Puis vous disiez cette passion du travail qui porte quand même toujours derrière elle cette tragédie économique pour toute une région, et effectivement je n'allais pas l'oublier c'est qu'il y a cette passion du travail, mais par le récit de Vincenzo Buonocore est portée aussi toutes les histoires singulière, individuelle, de tous ces employés, de toutes ces familles, et de toutes les familles, donc même celles qui ne... Enfin, les familles au sens large, c'est-à-dire pas les ouvriers, mais tous les membres de ces familles qui sont finalement tous marqués par cette fermeture d'usine qui crée une ambiance toute particulière dans cette région de Bagnoli. Et notamment, c'est vrai qu'il y a ce personnage qui occupe une grande place dans le roman, vous le disiez, puisque le récit se ferme presque sur l'enterrement de cette jeune fille qui est Marcella, qui a une attirance tout au long du roman pour Vincenzo Buonocore, mais qui incarne aussi beaucoup plus dans le roman, puisque le récit se termine là de ça, et qui incarne aussi ce dommage collatéral, on va dire, c'est-à-dire cette usine qui ne touche pas seulement les employés, les ouvriers qui sont mis au chômage, mais aussi toute la vie de cette région. De l'Italie. Donc ce personnage de Marcella.
Marcella.
Vous en pensez quoi?
Oui. Marcella, c'est un personnage un peu... C'est un peu difficile pour moi de penser à Marcella. Parce que on va dire qu'elle a un très fort, aspect symbolique, Marcella. Mais en même temps, c'est pour moi un des personnages un peu externe. Ça semble bizarre que je dise ça parce que finalement, voilà, c'est la mort de Marcella, c'est un peu la métaphore, non, de la mort de l'usine et tout ça. Mais elle est externe parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était une petite mensonge. En fait, la dimension du mensonge, c'est très présent. En fait, il y a toujours un peu une sorte d'inquiétude du narrateur de dire des mensonges, il veut dire la vérité. Et ça, c'est très important pour, dans l'exploration de la réalité, non, fait par un roman, de dire la vérité, de chercher la vérité. Donc, le fait qu'hésite parfois, à la fin du livre, Vincenzo Buonocore, il retourne en fait, auprès de l'auteur, du narrateur, di Ermanno Rea, et dans le dialogue, il dit « Bon, j'ai raconté des petites maisons. Est-ce qu'on va dire au lecteur de quoi il s'agit ?» Et finalement, Ermanno Rea lui dit que non, c'est pas nécessaire de dire ça. Ah non, je me suis trompé. C'est pas Ermanno Rea qui le dit, mais c'est Vincenzo Buonocore. En fait, c'est Ermanno Rea qui lui demande, est-ce qu'on va dire tout ce qui c'est vrai ou tout ce qui c'est pas vrai ? Il lui dit non, c'est pas grave. Et donc, il y a... je pense qu'en fait...
Que chacun pense ce qu'il veut. Nous n'avons aucun compte à rendre à personne. Nous avons la conscience tranquille. Ouais, c'est le passage.
C'est le passage. Mais la chose que c'est surtout les dernières lignes ici.
Ah, il dit donc les dernières lignes entre la vérité et le mensonge. La seule frontière qui existe, c'est celle de l'honnêteté. Donc il dit, tu as raison, Buonocore. Nous n'avons l'intention de dévoiler aucun secret pour la bonne et simple raison qu'il n'y a aucun secret à révéler. Entre la vérité et le mensonge, la seule frontière qui existe, c'est celle de l'honnêteté. Et nous pouvons en faire le serment. Cette histoire, quelle que puisse être sa valeur, nous l'avons racontée avec un cœur parfaitement pur, en toute honnêteté.
Donc, ça m'a frappé quand même qu'Ermanno Rea a choisi de terminer son roman sur l'usine et sur une histoire d'amour qui se termine mal, une histoire d'une usine c'est démonté, ce qu'il parle d'honnêteté, de secret et tout ça. Donc pour moi, je pense que ça, c'est une référence vraiment à Marcella. Le fait que, c'est utilisé un peu comme un élément étrange, extérieur.
Oui, elle est difficile à saisir, la Marcella. Ouais.
En plus, il a un côté symbolique très très fort. Marcella est fille d'un ouvrier qui est mort. Donc aussi, si on veut analyser au niveau sémiologique, non, c'est le père ouvrier qui est mort. Quand même, c'est pas c'est la fille en plus qu'elle est malade. Donc c'est le fruit un peu comment dire,
mauvais,
c'est de la tradition ouvrière qu'il va mourir en plus. Donc c'est un personnage que pour moi c'est bizarre. Mais et ça donne aussi l'enterrement de Marcella, c'est aussi la possibilité pour Vincenzo Buonocore et pour Ermanno Rea de raconter la dimension collective de l'usine. En fait, il y a deux passages, je pense, dans le livre, si j'oublie pas, où en fait, il y a vraiment une représentation collective de la ville et une représentation collective plutôt que de la ville, que c'est des ouvriers de l'Ilva. Un, c'est l'enterrement c'est pas l'enterrement, c'est la fonction religieuse, le funérail, on dit.
Funérail.
Voilà, la funérail. Et un autre, c'est une manifestation qu'ils ont fait à côté de l'université quand, en fait, ils protestaient pour la fermeture de l'usine. Il y a ces deux moments qui sont très importants dans la représentation collective. Puis, il y a toujours le focus, c'était plutôt sur Vincenzo Buonocore et sur son tragédie à lui, on va dire. Son démantèlement.
Ouais, son démantèlement. Donc ces moments, oui, effectivement, donc, sur la représentation collective. Et puis, en fond aussi, il y a cette ville oui. Qui est Naples, ville torturée un petit peu tout de même, ville complexe, et qui nous est, elle aussi, donnée à voir pendant un chapitre entier, qui est d'ailleurs assez long, c'est un des plus longs chapitres, il m'a semblé, où il part en escapade avec Chung Fu, donc avec la figure de Chung Fu qui est aussi difficile à cerner. Et donc Chung Fu demande à Vincenzo Buonocore de l'emmener à Naples, mais de ne pas l'emmener dans les endroits justement touristiques, de lui montrer le cœur de Naples. Et donc c'est comme ça que Vincenzo Buonocore finit par emmener Chung Fu donc à Naples et lui faire connaître finalement son Naples à lui, et notamment dans ce long chapitre, on en arrive à voir déjà le Naples populaire, c'est-à-dire le Naples populaire, et aussi le Naples, l'économie souterraine qui vit sous Naples, voilà, dans les sous-sols de Naples. Et donc ça interroge aussi en fond toutes les problématiques complexes, nombreuses que représente Naples, peut-être aussi plus généralement en Italie, je pense.
Attention.
Non, pardon. le portrait donc de Naples, et puis voilà aussi cette mafia qui apparaît en fond de temps en temps.
Alors il faut dire que le chapitre auquel je me rappelle plus lequel c'était. En plus, une chose très sympa, c'est que ce sont 33 chapitres. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais en fait, dans le chapitre que vous citez là, en fait, il commence avec la smorfia, que c'est cette pratique qui est très utilisée à Naples auprès de la population, d'associer à un numéro une signification. Donc, 33, c'est, on dit en napolitain, l'année Christ, c'est-à-dire l'âge de Christ. Voilà, il a choisi, je pense qu'il a une très forte attention de la part de l'auteur à la numérologie. Donc ça m'a toujours interpellé et je n'ai pas de réponse, malheureusement, à cette question-là. Mais bon, le chapitre dans lequel il part, en fait, en ville, au centre historique de la ville de Naples, c'est paradoxalement un des très rares moments où le personnage Vincenzo Buonocore voyage, il se déplace dans la ville. En fait, tout, presque tout le roman, sauf en fait, j'avais calculé, bon, je suis un côté obsessionnel comme Vincenzo Buonocore, peut-être j'avais calculé combien de fois il bougeait de quartier de Bagnoli. Si je me rappelle bien, c'était 5 ou 6 peut-être.
Oui, donc, c'est vrai qu'on a l'impression comme d'une parenthèse dans le roman, voilà. C'est-à-dire
et c'est une très grande parenthèse dans lequel en fait il amène son ami Chung Fu, même si ce n'est pas un ami tout à fait, parce que c'est un collègue, on va dire, quelqu'un qui l'achète, quelqu'un qui, au même temps, lui donne la possibilité de continuer à travailler comme un fou pour rendre cette usine encore utilisable, et en même temps, il lui demande sa vie, il lui demande tout. On lui demande de se démonter lui-même. Donc, il part en ville avec Chung Fu pour lui montrer la ville et arrive au centre de la ville où il est né. C'est ça le passage que vous disiez. Il lui montre sa maison de quand il était petit. En fait, ce passage-là, à mon humble avis, ça mis en relation, mais plutôt que relation, c'est en contraste le quartier de Bagnoli avec le centre-ville. Et cette dialectique qu'il y a entre les parties de la ville, c'est aussi au niveau symbolique, parce qu'il faut dire qu'Hermann Norea, il a un très fort processus de symbolisation. Il symbolise beaucoup, et il le dit. En fait, c'est très clair, son écriture. Et voilà, il y a cet moment-là où il se trouve dans la ville. Et il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise en marchant dans la ville, justement parce qu'il y a une... il y a Bagnoli qui représente le travail honnête, le travail fait avec passion, etc. Et il y a le côté de la ville, du corps de la ville, hein, qui en fait représente une partie, on va dire, illégale. Une partie où il y a des petits marchés, des petites choses pas trop claires. Hein, voilà.
Le commerce souterrain, là, le commerce, notre vin,
exactement,
un peu plus que petit trafic.
Voilà, c'est exactement souterrain. En fait, il y a cette double dimension que voilà, la ville qui est au soleil, qui est au clair du soleil, et la ville qui est en bas. Et en fait, il y a un passage aussi... très fort symboliquement, où il va chez un ex-collègue, je ne me rappelle plus le nom, qui avait, avec l'argent que l'usine lui avait donné pour partir de son boulot, il avait monté une petite usine de vêtements. Je pense qu'il travaillait le cuir, que d'ailleurs c'est une traduction très forte en Naples. Voilà. Et voilà, cet homme-là, il était tombé dans des relations un peu bizarres avec les gens qui exercent le pouvoir dans ce quartier-là. Notamment, c'est pas l'État.
On peut le dire, la mafia.
C'est la Camorra. C'est pas la mafia.
Il apparaît, voilà, c'est effectivement, on a vraiment senti ça. Il apparaît vraiment comme une victime, en fait, au final. C'est-à-dire, c'est finalement son licenciement aussi lui voulait un travail, un commerce honnête. En fait, c'est des pressions.
Oui, c'est très difficile. Bon, moi personnellement, j'ai pas d'expérience trop directe avec avec la Camorra, mais je pense, sûrement c'est ce qui sort du livre, c'est très difficile de s'échapper de cette liaison. En fait, une fois que je veux pas. C'est une question vraiment très très compliquée et très ressentie par les gens de Naples, surtout. Donc, je sens un peu la responsabilité de ce que je dis. Donc, je veux pas dire. Ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire que c'est difficile de se mettre dans le commerce et d'échapper à tout ça. Mais finalement, je le sais pas. Je sais pas pour expérience personnelle. Ce que je sais, c'est ce que tout le monde a lu. Je pense à Gomorra, par exemple, de Roberto Saviano. Et donc c'est très très difficile de dire ça. Moi, personnellement, ce que j'ai remarqué que c'est important, il y a cette dimension antinomique entre le quartier de Bagnoli et le quartier central de la ville, du corps de la ville. Et voilà, c'est représenté comme ça. En plus, dans le même passage où il y a cette promenade au centre de la ville de Naples, il y a un moment aussi où... Vincenzo Bonogore et Chung Fu vont rendre visite à un oncle, je pense, je ne me rappelle plus, un parent, quelqu'un de la famille de Vincenzo Bonogore, et qu'il habite au-dessus del golf, golf de Naples. Donc à part de son balcon, il peut voir toute la ville. Et en ce moment-là, en fait, la représentation, l'auteur peint un peu un panorama de la ville de Naples. Et ce qui sort, c'est il y a de la pluie, parce qu'il pleut dans ce chapitre-là, il pleut tout le temps. Et il y a cette représentation du golfe de Naples, avec la pluie, avec des nuages roux, violets, un peu funèbres, non, qui est présent, très fort présent, sur Naples, sur la ville. Et tout ça... en fait, nous aide à établir un rapport très fort avec un autre livre d'Hermann Norea qui est sorti dans le 1995, qui c'est Il Mistero Napoletano. Je pense que ça a été traduit en français Le Mystère Napolitain.
Oui,
et où, en fait, lui, il parle vraiment du port de Naples. Le port de Naples qui est menacé par la présence des Américains, et donc la ville de Naples qui est bloquée, qui est congelée dans la période de la guerre froide. Et donc moi, quand j'ai lu ce passage-là, en connaissant le livre de Mystère Napolitain, j'ai tout de suite fait établi le rapport entre les deux livres. Et qu'est-ce qu'il fait Vincenzo Buonocore? Comme il a fait, en fait, dans tout ça, il pense à Bagnoli. Et il dit derrière la colline de Posilli, bon, c'est un quartier de Naples, il y a un peu, je sais pas comment il dit, mais il pense à Bagnoli. Donc il y a toujours cette double dimension, la ville et l'usine, le quartier de l'usine.
Alors c'est vrai que vous parliez de Gomorra,
oui.
Donc de cet ouvrage donc de Roberto Saviano, qui avait fait justement beaucoup de bruit aussi à la sortie en Italie et dans le monde. Ces deux livres se rapprochent aussi dans cette volonté finalement de rapprocher, enfin d'interroger en fait la place de la littérature et le pouvoir presque, on a envie de dire, de la littérature. J'avais trouvé cette citation qui m'avait beaucoup plu de il y a quelque temps, hein, il y a plusieurs mois de ça, et donc en lisant j'y ai repensé. Donc Roberto Saviano, qui écrit son livre sur la Gomorra et qui a été quand même menacé de mort, donc, et qui a été pendant, enfin je ne sais pas s'il est toujours, mais très longtemps sous surveillance policière, ça, et qui dit donc à propos de la littérature: « Si j'ai jamais rêvé quelque chose, c'est que mes mots aient une influence, c'est de pouvoir démontrer que la parole littéraire peut encore avoir un poids, peut changer la réalité. » Donc effectivement, ce qui me semblait intéressant, c'était de voir la manière dont ces deux auteurs font de la littérature. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un positionnement qui est assez original parce qu'ils se basent sur des faits historiques très forts. Et du coup, les frontières du littéraire sont aussi interrogées un petit peu parce que justement, on prend bien soin de nous préciser. Bon, alors je vous raconte, j'ai beaucoup parlé avec un ex-ouvrier d'une usine, mais c'est pas pour autant une chronique, c'est pas un reportage, c'est pas une dénonciation, voilà, c'est donc il y a ces frontières qui sont interrogées parce qu'on ne sait plus vraiment, c'est-à-dire on donne la parole à presque un témoignage en réalité, en disant donc on est-ce que oui ou non on est dans la fiction, le réel, à quel moment on passe de l'un à l'autre. Donc quelque chose qui se situe entre chronique et entre fiction. Et donc du coup, ça a l'air d'être quand même quelque chose... voilà, nous, je pense qu'on connaît un petit peu ce positionnement, surtout en France, par Gomorra, parce que c'est aussi un petit peu ce procédé-là aussi. C'est-à-dire, ça se rapproche de... Je regardais une interview de Roberto Saviano qui disait les écrivains... Certains écrivains disent que je suis journaliste et les journalistes disent que je suis écrivain. Donc il y a un petit peu... Et
puis, il est en frontière, non ?
Voilà, une frontière compliquée. Puis j'ai vu aussi qu'Hermann Auré a été lui-même journaliste aussi. Donc il y a cette frontière et finalement ça allait être quelque chose, vous voyez, ce sont des ouvrages contemporains qui utilisent la même...
Pour cette question-là, je me suis beaucoup interrogé moi aussi, parce que si dans un côté je me demande qu'est-ce que c'est la littérature, c'est non l'exploration d'une frontière, toujours, bon, qui sépare plusieurs choses, donc la réalité, l'imagination, le vrai et le faux, tout ça, et... Donc je me dis que voilà, cette difficulté, quand je remarque cette difficulté dans donner des étiquettes à un livre, ça veut dire que je suis dans un terrain, on va dire, inconnu, mais probablement, très fort probablement, un terrain littéraire, donc, où il y a l'œuvre, il y a quelque chose que que me donne cette dimension de littéralité. Donc je pense que ces deux opérations de quelles vous parlez, de Gomorra ou de la dismission et de le démantèlement d'Hermann Auré, c'est une opération voilà, très, très réussie d'amener une expérience de la ville.
Politique ou enfin politique dans le sens, est-ce que c'était dans ce sens-là de rebondir sur cette phrase de dire la parole littéraire peut encore avoir un poids, peut changer la réalité, c'est-à-dire il y a quand même quelque chose qui relève justement d'un engagement, j'ai envie de dire de l'écrivain là, c'est une littérature qui est quand même assez porteuse de position.
Mais toujours, toujours quand on comprend quelque chose, c'est par un moyen. Normalement, le moyen, c'est le discours. Donc, on est face au discours littéraire. Donc, c'est une création de sens. Donc, le fait qu'il y a des personnes, comme les écrivains, qui sont très capables de construire cet organisme qui donne du sens, qui explore le sens. Voilà, et on est face à quelqu'un qui est très capable de construire un discours. Et donc de nous donner les moyens de comprendre les choses qui sont autour de nous. Donc voilà, en ce sens-là, j'ai jamais douté de la possibilité de la littérature de donner une vision de la... Je sais pas si utiliser le mot vérité, c'est un peu un peu difficile, mais bon, quelque chose qui lui rassemble, donc quelque chose qui a du sens pour nous. Donc, je pense aussi, je pense à Gomorra de Roberto Saviano, où il y a un verbe qu'il utilise deux fois dans tout le livre, que c'est le verbe travedere, que je sais pas du tout comment traduire en français. C'est comme voir, mais à travers quelque chose. C'est peut-être entrevoir, mais c'est pas en italien entrevoir. Elle a une autre traduction. Donc voilà, j'aurais vais voir sûrement la traduction de Gomorra pour voir comment il est traduit. Je pense que c'est Quadrupani qui l'a traduit Gomorra. Mais bon, en fait, dans ce verbe-là, je pense qu'il y a la qui est un peu caché le sens de l'opération de Gomorra. En fait, tout ce qui raconte Roberto Saviano, c'est dit. Dans Lion Arrant, et
le jeu qui raconte,
merci. Le jeu qui raconte, c'est quelqu'un qui dit voilà, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, et je vous dis qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vécu. Mais après, ça semble bizarre de ne pas dire j'ai vu, mais j'ai entrevu au travisto. Donc, ça, cette présence de Nevers a quand même interpellé. Et je pense que c'est le sens de l'opération qu'il fait. Il utilise des documents, il utilise des sources. On l'a vu aussi avec Herman Norea, il prend des documents du syndicat, il y a des pages, bon, parfois un peu de difficile lecture, on va dire, même si j'aime beaucoup Herman Norea et j'aime beaucoup ce livre-là, mais bon, parfois peut-être un peu difficile de lire des pages de numéros, de combien d'ouvriers il y avait à ce moment-là, ou combien de tons de acciaio, de fer il produisait, donc voilà. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est de monter tout ça dans un dispositif qui donne du sens. Donc voilà, c'est en ça que, surtout aujourd'hui, on a de la littérature. C'est se placer, se donner une identité dans cette terre de frontières entre... Ce qu'en Italie on appelle la non-fiction, non, c'est avant il y avait la fiction, la non-fiction, et désormais c'est toujours plus pas clair, non, c'est toujours plus un peu comme ça fondu les deux catégories de lecture. Bon, puis autour de la question de qu'est-ce que c'est la non-fiction en Italie, ou qu'est-ce que c'est la non-fiction tout court, hein, voilà, c'est une question très difficile à répondre, et qu'il y a beaucoup d'étudiants, de chercheurs qui sont en train de se questionner. Et voilà, il y a aussi un côté un peu plus commercial, non, de en fait tous les livres sont vendus par des éditeurs, et des éditeurs ils ont un mort pour la littérature parfois, mais aussi un mort pour le bilan. Et donc je pense que la réalité, ou quelque chose qui est donné pour réel, et c'est voilà, quelque chose qui donne la possibilité de vendre un peu plus de copies aussi.
Ok. Bon, ben, merci beaucoup pour toutes ces réflexions. On s'approche, on papote, et puis on s'approche de la fin. On voit pas que la fin s'approche. Donc, pour boucler la boucle, j'avais envie donc de, pour finir, interroger cette littérature, qui peut interroger le monde aussi, et puis lui donner, cette place dans le monde pour la littérature, mais aussi pour l'art plus généralement. Et c'était au début cet extrait que vous avez choisi, qui est un des très très assez beau moment du roman, on peut le dire, et où donc ce saxophoniste qu'on entend jouer donc l'international est en fait un saxophoniste, on l'entend pas dans l'extrait ou pas beaucoup, est un musicien compositeur très connu, je pense qu'il est très connu en Italie.
À Naples, il est très connu.
et qui est donc Daniele Seppe, dont on nous dit, voilà, qui Seppe, lui aussi avait mille raisons de se trouver là, donc le jour de l'explosion, la première explosion de la dynamite. C'était un amateur passionné de traditions ouvrières, et il y avait longtemps qu'il essayait de transcrire sous forme de notes les bruits du travail, la passion de fabriquer, la douleur qu'on éprouve dans tout ce qui se perd de manière irrémédiable, dans la marche le plus souvent chaotique et violente de l'histoire. Donc, pour un petit peu rendre hommage à ce beau roman d'Hermann Öre et cette place qu'il donne donc à ce démantèlement de l'usine, je voulais vous proposer d'écouter pour finir un extrait donc de Daniele Seppe, qui est un extrait de l'album Vite Perdite, qui est sorti en 1993 et qu'il a un peu fait connaître plus largement. L'extrait s'appelle donc Vite Perdite, avec un texte en partie en latin tiré d'une œuvre de Tacite en plus de ça. Hein, voilà, que demande le peuple. Donc je vous propose de l'écouter et puis on se dira au revoir après.
Radio Bosnie-Herzegovina, VST.
Adesso che mancano terre alla vostra sete di totale devastazione, andate a frugare anche il mare. Ardi, se il nemico è ricco, arroganti, se è povero. Gente che nell'Oriente e nell'Occidente possono saziare. Solo voi bramate possedere, con parismania, ricchezza e miseria. E rubano, massacrano, rapinano, e con falso nome lo chiamano impero. E rubano, massacrano, rapinano, e con falso nome lo chiama il nuovo ordine. Infine, dove fanno il deserto, dicono che è la pace.
Merci donc Carlo Baghetti, nous étions ravis de vous recevoir
merci
au Livre de Frog. Merci aussi à Jean-Baptiste, double merci pour cette émission et pour celle d'avant, puisque nous avions oublié de le remercier, donc c'est fait deux fois. J'ai presque envie de remercier une troisième pour le cas où je l'aurais oublié une autre fois, mais je ne le ferai pas, je dis au revoir. Et au mois prochain, voilà, avec Elodie de retour.
Le livre de Frog.
Littérature, livre, invité.
Le livre de Frog.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.